Radio Okapi. Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachamo. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir dans cette émission. Merci de nous écouter également sur internet, sur www.radiookapi.net. Aujourd'hui, nous parlons des inondations. Comment lutter contre les inondations dans les grandes villes de la RDC? L'ingénieur Chito Marigeko Auguste, ingénieur civil des constructions et expert en hydrologie, est l'invité du magazine Okapi Service. Ingénieur Chito, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bienvenue dans cette émission. Nous rappelons qu'il est également membre de l'Ordre national des ingénieurs civils du Congo. Nous allons aborder cette question avec lui dans quelques instants. Vous avez des questions et préoccupations par rapport aux inondations? Appelez au 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Vous avez également la possibilité de poster vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde, Marcel Ngombo assure la réalisation et la coordination de cette émission qui présente Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaké. Bienvenue à tous.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Comment lutter contre les inondations dans les grandes villes de la RDC? Vous savez, plusieurs villes sont touchées par les inondations causées par les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers temps. À Kinshasa, on a enregistré près de 40 morts. Autour de 1000 hectares des différentes cultures sont endommagés dans les territoires de Mbanzangungu. Plusieurs familles sont sans logement dans le sud d'Ubangi à la suite des inondations qui ont affecté plusieurs agglomérations. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter efficacement contre les inondations qui touchent actuellement plusieurs villes du pays? On en parle avec l'ingénieur Chito Marigeko Auguste, ingénieur civil des constructions et expert en hydrologie, membre de l'Ordre national des ingénieurs civils du Congo. Ingénieur Chito, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous parlons des inondations. D'abord, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par inondation?
Merci beaucoup. Quand on parle d'inondation, il faut comprendre qu'une inondation, c'est une submersion temporaire d'un espace donné ou d'une zone donnée qui peut être causée par une crue, par exemple. Une crue, c'est une élévation du niveau de l'eau. Et ce sont des cas qui arrivent exceptionnellement, mais aussi couramment, dépendant de certains facteurs anthropiques ou facteurs naturels.
Voilà, donc aujourd'hui, on peut dire que dans des termes beaucoup plus simples, qu'on peut comprendre par inondation, c'est un débordement, les eaux débordent du lit.
Voilà, donc en termes simples, inondation, c'est le débordement des eaux sur une surface donnée. Donc le cours d'eau sort de l'air lit naturel et empiète sur le lit majeur, parce que ce sont des cas qui arrivent généralement dus à une crue exceptionnelle. Et c'est le cas que nous observons actuellement. actuellement sur les différents affluents du fleuve Congo et même le grand cours d'eau actuellement à Kinshasa.
Il y a
une forte montée des eaux. Mais alors il faut comprendre qu'il y a on peut catégoriser deux types d'inondations. Nous avons des inondations dites pluviales et c'est particulièrement dans des zones urbanistiques. C'est dû plus à des constructions anarchiques, c'est-à-dire une urbanisation non contrôlée où on a un fort taux d'imperméabilisation du sol qui ne favorise pas les infiltrations et ce qui fait que toute la pluie qui arrive est transformée en écoulement et en ruissellement. Et quand il y a
là, vous appelez ça quel type d'inondation ?
Ce sont des inondations pluviales.
Pluviales.
Ce sont des inondations pluviales.
Ok.
Et de l'autre côté, nous avons des inondations dues à la remontée du fleuve, donc des inondations fluviales qui sont des phénomènes naturels dans toutes les grandes villes ou le grand cours d'eau. Généralement, ils sortent de leur lit de manière exceptionnelle. Lors de crues, par exemple, qu'on peut classifier centennales ou décennales, c'est-à-dire de crues qui peuvent revenir une fois tous les 10 ans ou une fois tous les 100 ans. Donc, ce sont des situations exceptionnelles, mais naturelles. Et l'avantage, c'est que quand ça arrive, c'est une occasion pour documenter ces crues-là, pour prendre des dispositions, pour limiter le dégât. Hein? Si, par exemple, pour des inondations dans des zones urbaines, il y a des facteurs anthropiques majeurs qui entrent en jeu dans la cause.
Quels sont ces facteurs dans les centres urbains qui causent les inondations?
Voilà, dans des zones urbaines, nous constatons qu'il y a une forte démographie. La croissance démographique fait en sorte que la population qui ne cesse de croître est accompagnée d'un besoin en infrastructures de base, en logements sociaux, en routes, et toutes ces infrastructures ont pour conséquence de pouvoir réduire le taux d'imperméabilisation du sol. Ça veut dire que la pluie qui tombe ne sait plus s'infiltrer. Et quand la pluie ne sait plus s'infiltrer, ou il dépasse la capacité d'infiltration du sol, il se met à ruisseler. Et quand il se met à ruisseler, c'est cette onde de ruissellement qui génère des crues. Dans des zones basses, on a des inondations, et dans des zones à forte pente, nous avons des érosions. Et particulièrement à Kinshasa, par exemple, nous constatons que le réseau d'assainissement qui devait prendre en charge le ruissellement superficiel est vétuste. Ça date depuis l'époque coloniale. À l'époque, dans les années 60, Kinshasa comptait peut-être moins d'un million d'habitants. Mais aujourd'hui, nous avons plus de 15 millions d'habitants. Et avec les zones urbaines, les différentes constructions, nous avons un volume supplémentaire de eau qui normalement sont censés être pris en charge par un réseau d'assainissement, malheureusement qui est vétuste. Ça veut dire qu'il ne répond plus. La capacité, la section de ces ouvrages ne sont plus suffisantes.
Pas seulement que ces réseaux sont vétustes, mais les gens ont aussi construit sur les collecteurs, sur les lieux de passage des eaux, des pluies.
Malheureusement, c'est le constat donc d'une urbanisation non contrôlée. Les gens ont construit par-dessus le collecteur, mais aussi le problème fondamental, c'est que la capacité hydraulique de ces ouvrages est dépassée parce que quand ils ont été dimensionnés pour un volume donné de eaux. Mais ce volume a été multiplié par 10 ou par 100, encore qu'il faudrait vérifier jusqu'où. Et alors, ce réseau d'assainissement est vétuste. Et avec tout le déchet solide qu'on rejette sur nos cours d'eau ou bien sur nos grands collecteurs,
ça bouche et ça réduit la
capacité de ces ouvrages à prendre les eaux et à les acheminer en toute sécurité vers un exutoire. C'est là toute la problématique. Et pour résoudre ces problèmes, surtout dans les zones urbaines, parce que ce n'est pas seulement à Kinshasa, même dans de grandes villes en Europe ou en Amérique, on a des cas pareils parce que l'urbanisation est accompagnée d'une imperméabilisation, d'un changement d'occupation de sol. Et ces changements d'occupation de sol apportent un volume important. Donc il faudrait faire un état des lieux du système d'assainissement, par exemple à Kinshasa, et au besoin, revoir le tracé ou le dimension de ces ouvrages. S'il faut, à la limite même, faire de nouveaux tracés des ouvrages d'assainissement.
Même les caniveaux ont besoin d'être revus, revoir leurs dimensions.
Même le caniveau actuellement. C'est vrai que quand il y a des projets qui arrivent, on dimensionne les ouvrages pour prendre en charge les eaux qu'ils doivent drainer. Mais les anciens collecteurs qui existaient depuis l'époque coloniale n'y répondent plus. Et quand ils ne répondent plus, les eaux débordent. Et quand les eaux débordent, ils créent des dégâts, des érosions et des inondations ça et là. Mmh. Et il faut comprendre que pour mieux comprendre ces phénomènes, il faut aller dans le concept d'un bassin versant. Le bassin versant, c'est la surface qui draine les eaux dans une zone donnée. Et toutes ces eaux sont censées être prises en charge par des ouvrages. Et actuellement, il y a des modèles hydrologiques qui savent, par exemple, déterminer avec précision quand on a une pluie donnée, on aura une crue de temps. Et ça, c'est déjà dans le moyen de lutte, dans la prévision et même dans la prévention. Parce qu'il faut noter que pour lutter contre ces catastrophes, notamment les inondations et les érosions, il y a trois éléments majeurs. Il y a la prévention, il y a la prévision et il y a la protection. La prévention, c'est prendre des dispositions à temps. C'est prendre des dispositions, délimiter par exemple les zones qui sont dites inondables, qui ne sont pas constructibles, donc les zones non edificandi. Où on dit par exemple que là...
Par exemple ici à Kinshasa, la plupart des inondations touchent beaucoup plus les gens qui ont construit tout le long des rivières.
Particulièrement les gens qui ont construit tout le long des rivières, c'est l'espace de cours d'eau, c'est-à-dire le lit majeur. Quand l'eau sort de son lit, parce qu'il y a ce qu'on appelle lit mineur, en saison sèche, l'eau prend son cours normal. Mais en saison de pluie, les eaux débordent. Donc il y a ce qu'on appelle le lit majeur, c'est-à-dire la zone d'expansion du cours d'eau. Et ça, c'est tout à fait naturel. Vous comprenez? Mmh. Et ces phénomènes d'inondation, je vous donnerai par exemple le cas de l'Égypte, où il y a inondation chaque année. Et heureusement pour eux, ils prennent avantage de ces phénomènes-là. Parce que ça permet, par exemple, de faire l'irrigation. Ils ont développé un système de bassin d'irrigation et avec des ouvrages de protection. Et ils savent gérer et même anticiper sur tous ces problèmes. Mmh. Chose que, à Kinshasa, par exemple, on n'est pas encore
arrivé. On sait pas prévenir ces gens. On est souvent pris des cours par ces gens.
On est pris des cours. On est dans la réactivité au lieu d'être dans la prévention. Parce que on peut faire de la prédiction. Aujourd'hui, actuellement, on peut faire de la prédiction parce qu'on a une chronologie de pluie avec le service météorologique qui a
généralement il pleut beaucoup en décembre.
En décembre, il pleut beaucoup et la crue la plus grande historique qui a été observée par exemple sur le fleuve Congo date du mois de décembre 61 où le niveau de l'eau et le niveau du fleuve est passé jusqu'à 6 mètres. Et c'est peut-être le cas que nous observons actuellement aujourd'hui, encore qu'il faudra documenter.
Aujourd'hui, on est à combien de mètres? Est-ce qu'on a une idée?
Il faudra documenter ça, c'est-à-dire faire des mesures actuellement. Par exemple, il y a par exemple le centre de recherche des ressources en eau du bassin du Congo, qui est en collaboration avec, en partenariat avec l'Agence congolaise de grands travaux, qui dispose des équipements, par exemple, pour faire des mesures hydrologiques, des mesures de débit de rivière en saison de pluie et en saison sèche. Ça permet de cartographier, de documenter ces phénomènes extrêmes pour prendre des dispositions, pour agir dans la prévention. Pour prendre des dispositions. Et dans des pays organisés, il y a des systèmes d'alerte que l'on développe pour prévenir les gens que voilà.
Attention, le niveau d'eau est en train de monter dangereusement.
Le niveau d'eau va augmenter et on prend des dispositions pour évacuer à temps, au lieu d'être dans la réactivité.
Voilà, donc vous avez dit, pour lutter contre les inondations, il y a trois éléments. Premièrement, faut travailler sur la prévention. Deuxièmement, vous avez parlé de la prévision. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Voilà, dans le cadre de la prévision, ça veut dire, nous avons par exemple la météo, le service météorologique de Kinshasa, qui fait des prévisions sur le pluie. Et en ayant des prévisions sur le pluie, on s'est développé des modèles hydrologiques, des modèles pluie-débit, qui savent, en fonction d'une pluie donnée de telle intensité, on sait dire qu'il va se produire une crue de telle intensité, de telle vitesse et de tel niveau. Et avec ça, on sait développer des systèmes d'alerte. Et ça, c'est de la prévision. Dans des pays organisés, ça existe. Il y a des centres nationaux de prévision ou de prévention contre les inondations. Et quand on développe ces systèmes d'alerte, on sait dire, en fonction de données météorologiques, on dit par exemple qu'il va pleuvoir autant demain ou bien dans 2 jours, on sait, sur base de modèle, dire que cette pluie va générer une crue d'autant. Et on sait, à partir d'un modèle hydrologique, générer un modèle hydraulique qui va donner l'étendue de la zone qui sera inondée.
Et on prévient les gens et on
prend des dispositions. Ça, on contrôle. Ça, on sait contrôler. On sait anticiper là-dessus. Et c'est sur ça que j'exhorte vraiment l'État d'arriver à ça, d'avoir un centre national de prévention, un service national qui va s'occuper de la prévention de toutes ces catastrophes comme des inondations et des érosions.
Comment lutter contre les inondations dans les grandes villes de la RDC? On en parle dans Okapi Service avec l'ingénieur Chito Maregeko Auguste, ingénieur civil des constructions, expert en hydrologie. Nous avons en ligne Simon de Kananga. Simon, bonjour.
Ouais, bonjour, je dis Daniel Kachama, bonjour également à l'ingénieur Chico.
Est-ce que la ville de Kananga est aussi touchée par les inondations ou quelques villages du Kassai?
Oui, bien évidemment, raison pour laquelle j'étais censé même intervenir, parce que vous savez, avec ce mois de décembre, novembre, décembre plutôt, il y a beaucoup de pluie ici à Kananga. Et le problème, c'est que depuis longtemps, là, on constatait que c'était juste surtout des personnes qui habitent le long des rivières et des fleuves qui étaient beaucoup plus touchés par les inondations. Mais aujourd'hui, on remarque que c'est presque tout le monde, parce que quand il pleut, toutes les rues et les avenues sont transformées en rivières. Donc, la circulation devient de plus en plus vraiment très difficile. Donc, c'est vraiment un problème qui n'est pas seulement à Kinshasa, mais presque partout. Et ces eaux-là créent même des têtes d'érosion, si vous en entendez beaucoup plus ici à Kananga. Il y a beaucoup de têtes d'érosion qui sont provoquées par les eaux, qui sont très mal canalisées. Alors, la question que je peux même demander à l'invité, qui est censé vraiment organiser les canaliser les eaux? Est-ce que ce sont les personnes dans leur famille qui peuvent, avec leur tonneau, au moins conserver une petite quantité d'eau aussi suffisante qui ne peut pas être jetée ou coulée dans les rues, ou bien c'est l'État, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de canaux qui sont bouchés, on ne sait pas vraiment déboucher tout ça, et puis les eaux circulent un peu à désordre, ça déborde les parcelles, les gens n'en tiennent même pas compte. Alors qui a vraiment la responsabilité? Est-ce que c'est l'État ou bien tout le monde doit prendre conscience de conserver au moins une quantité d'eau suffisante chez lui dans les tonneaux? Et le reste, là, ça peut quand même, en quelque sorte, permettre la circulation. Voilà un peu ma petite participation.
Merci, Simon de Kananga. Ingénieur Chito, vous avez la parole.
Merci, Monsieur Simon, depuis Kananga. Je pense que la responsabilité revient à tout le monde. Bien sûr que l'État a un rôle majeur, mais aussi la population. La population doit être suffisamment éduquée sur la gestion des eaux pluviales. Déjà au niveau de ta parcelle, si, parce que votre parcelle ou votre maison, votre bâtiment en lui-même, constitue un bassin. Le toit que vous avez, votre toiture, c'est un bassin d'eau. C'est-à-dire c'est une quantité importante de eau.
Alors, qui tombe déjà dans la parcelle.
Qui tombe déjà dans votre parcelle. Donc vous avez comme un réservoir avec vous à la maison. Et la meilleure chose à faire, c'est que j'invite la population. Déjà, à votre niveau, vous pouvez gérer. Parce que quand il y a une crue, il y a ce qu'on appelle le bassin de crétage, le bassin de laminage. On sait laminer le cri, c'est-à-dire réduire le débit de pointe, c'est-à-dire le débit qui peut créer de dégâts. Et quand vous créez de ce genre de bassin chez vous à la maison, vous pouvez créer un petit réservoir souterrain où vous récoltez toutes les eaux pluviales. Et après la pluie, vous savez l'évacuer, par exemple, en trop-plein.
Mais souvent, il y a, certaines maisons, on place des sortes de canalisations au niveau des toitures, des gouttières.
On met des gouttières avec des descentes.
Voilà, qui canalisent les eaux de pluie.
Effectivement. On met des gouttières avec des descentes qui rencontrent des regards de chambre de visite. Mais, s'il vous plaît, il est possible de pouvoir ramener toutes ces eaux finalement vers un bassin tampon, un bassin, un réservoir souterrain qui peut vous permettre de pouvoir réguler ou réduire l'impact de ces eaux de ruissellement qui créent beaucoup de problèmes. Si chacun dans sa parcelle sait déjà à ce niveau-là, parce que ces eaux aussi peuvent vous servir à la maison. Ainsi, vous récoltez la gestion des eaux pluviales au niveau de chaque parcelle, c'est déjà un moyen de pouvoir réduire les effets néfastes des eaux de ruissellement.
Mais avec les fortes pluies qu'il y a ces derniers temps, il a dit même à Kananga, quand il pleut, toute la ville est transformée en rivière.
Oui, toute la ville est transformée en rivière. Il faut tenir compte que la pluviométrie également joue un rôle important. Mais à côté du rôle que doit jouer la population dans sa parcelle, mais il y a également l'État qui doit mettre à disposition les équipements, les ouvrages hydrauliques, les ouvrages de base qui sont censés, au final, prendre toutes ces eaux. Comme nous l'avons dit,
par exemple...
Il faut curer le caniveau. Les gens déposent de déchets solides,
des déchets dans,
le caniveau, et ça réduit la section des ouvrages, et les eaux débordent des caniveaux et créent des dégâts.
Détruire aussi les constructions anarchiques.
Les constructions anarchiques, déjà j'avais salué, je crois, il y a quelques mois, l'initiative qui a été prise par l'autorité de la ville pour interdire les lotissements à travers Kinshasa, parce que ça encourageait des constructions anarchiques. Normalement, une bonne urbanisation veut en sorte que, avant même de pouvoir faire un lotissement donné, il faudrait d'abord commencer par les infrastructures de base. Les infrastructures de base, ce sont les ouvrages d'assainissement, pour prendre les eaux, ce sont le voie d'accès, c'est l'électricité, avant même de commencer à construire. On a déjà tous ces équipements de base qui précèdent même la construction ou les lotissements d'un...
Or, ce n'est pas toujours le cas.
N'est pas toujours le cas, malheureusement.
On va accueillir Shadrack de Mbujimaï et Cédric de Kinshasa. Bonjour, Shadrack.
Oui, bonjour, monsieur Jody Daniel. Bonjour, ingénieur Chikou. Bonjour à tous les auteurs de la Radio Capi.
Alors, comment se présente la situation à Mbujimaï?
Oui, la situation à Mbujimaï est catastrophique, monsieur Jody. Voilà le pourquoi je voulais à ce que l'invité puisse un peu nous donner quelques mécanismes pour un peu aider aux autorités sur la ville, afin de décanter un peu la situation. Par rapport à l'énumération des inondations par l'ingénieur Chico, mais moi je voulais intervenir par l'inondation pluviale, dit à la construction, pas la construction anarchique, mais néanmoins il s'est fait que ici en Mbujimaï il se pose un problème, nous n'avons pas le moyen de canalisation d'eau. C'est cela un peu qui nous donne assez de conséquences. Au moins dans les 5 communes qui composent la ville de Mbujimaï, nous avons au moins plus de 5 têtes d'érosion dans chaque commune. Cela est dû à la manque de canal. L'eau manque où aller. Cela nous pose un peu de problèmes. Voilà le pourquoi nous avons des têtes d'érosion partout. Voilà le pourquoi la ville est tellement enclavée. Voilà le pourquoi je voulais que l'ingénieur Chico puisse nous donner un peu quel mécanisme qu'il peut proposer aux autorités de la ville du Kassai oriental, afin de nous décanter un peu de cette situation. Aujourd'hui, nous manquons par où entrer, par où sortir, par où même rouler avec la moto, parce que s'il pleuvine, je vous dis, c'est comme mes prédécesseurs ont bel et bien dit, nous manquons même pour comment sortir. C'est devenu catastrophique. Alors, qu'est-ce que l'invité peut un peu nous prodiguer, qu'est-ce qu'il peut donner comme mécanisme aux autorités qui nous écoutent en ce moment, afin de nous décanter de cette situation. Voilà un peu ma contribution. Je vous remercie.
Merci, Shadrack. Cédric, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour, Jody Daniel.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux inondations?
Bon, je voulais te poser à l'invité, que font l'État quand les gens construisent au bord de la rivière? Comme je dis aussi à ce moment, bidon, le site agricole est transformé en des maisons. C'est pour laquelle je voulais te poser à l'invité, que font l'État quand les gens construisent au bord de la rivière? Parce que quand il pleut, il y a vraiment une inondation.
D'accord, merci. Ingénieur Chito, vous avez la parole.
Oui, merci Monsieur Chadrack depuis Mbujimaï. Comme je l'ai recommandé pour la ville de Kinshasa, je pense que même pour toutes les grandes villes du pays comme Mbujimaï, il est important de pouvoir faire un état des lieux des ouvrages d'assainissement. Je crois qu'il y a un service public qui a en charge les ouvrages d'assainissement à travers le pays. C'est le moment de faire un état des lieux des ouvrages d'assainissement pour finalement vérifier la capacité d'évacuation, la capacité hydraulique de ces ouvrages à évacuer les eaux. Par exemple, le cas de Mbujimaï, je n'ai pas d'idée sur son réseau d'assainissement, son système, raison pour laquelle il faut faire un état des lieux. Et à partir de cet état des lieux-là, on peut, sur base d'une analyse de bassin versant. Comme je le dis ici, un bassin versant, c'est la zone qui draine les eaux en fonction des pentes. On sait déterminer quel est le volume qui est drainé dans une commune donnée ou dans une zone donnée. C'est ce qu'on appelle bassin versant. Mmh. Et en fonction de ces volumes-là, et en fonction de l'état des lieux, on peut savoir si ces ouvrages existants suffisent ou continuent à jouer bien les rôles hydrauliques d'évacuer les eaux. Et si ce n'est pas le cas, il faudrait que l'État puisse s'organiser de pouvoir récalibrer ces ouvrages d'assainissement ou refaire de nouveaux tracés de manière à prendre en charge ces eaux de ruissellement qui créent beaucoup de dégâts.
Prenons par exemple la situation dans les Bon, il y a aussi la question de Cédric de Kinshasa qui dit que les sites agricoles vers Ndjili ont été occupés par, il y a maintenant des constructions anarchiques, et puis quand il pleut, avec toutes ces pluies que nous avons ces derniers temps, il y a ces endroits-là sont inondés.
Oui, pour ce qui est le cas de Ndjili, donc le site où ils ont construit, qui sont le long de la rivière, il y a des zones
marécageuses,
des zones qu'on dit non édificantes, des zones non constructibles, parce que ce sont de plaines inondables. Et quand on décide de construire là-dessus, l'État normalement prend des dispositions de protection. Mais ce qu'on constate généralement, la population qui construit sur des sites non constructibles, elles sont surprises par ces genres d'érosion. Pour le cas, par exemple, du bassin de la rivière Ndjili, il faut aussi tenir compte que le changement d'occupation de sol est un facteur important. C'est-à-dire le facteur urbanistique, c'est un facteur important. Quand vous changez la destination de l'occupation d'un sol, vous passez, c'était un sol nu ou végétalisé, vous enlevez la végétation, vous enlevez le sol nu qui favorisait les infiltrations, vous mettez par exemple un bâtiment qui devient une surface imperméable, vous créez un volume supplémentaire des eaux. Et particulièrement pour le bassin de l'Ndjili, il y a une étude qui a été faite entre 1987 et 2001 pendant 14 ans. On a constaté que le changement d'occupation du sol est passé de 1 à 3%. Et ce changement d'occupation du sol a un impact majeur sur le fonctionnement hydrologique du bassin. Pour le cas de l'Ndjili, par exemple, ces changements d'occupation de 1 à 3% a provoqué une croissance du débit. Le débit de crue sur la rivière Ndjili est passé de 1 à 30%. C'est passé de 1 à 30%. C'est pour vous montrer l'impact que peut avoir le changement d'occupation du sol sur le régime hydrologique de cours d'eau. Et normalement, quand on fait ce genre d'analyse ou ce genre d'études, il y a des recommandations et des mesures d'accompagnement. Il faudrait encourager l'aménagement des espaces verts qui favorisent la filtration du sol et qui réduit au maximum le ruissellement superficiel.
C'est comme dernièrement à Kinshasa, on a enregistré près de 40 morts. Il avait plu presque toute la journée. Et chaque fois qu'il y a des pluies diluviennes comme ça, on compte toujours des dégâts matériels et des pertes en vies humaines.
Et on continuera d'en compter toujours si on ne prend pas des dispositions. Comme je le dis, pour lutter contre ces genres de catastrophes, il faut jouer sur trois piliers. Il y a la prévention, la prévision et la protection, comme partout ailleurs.
Et par rapport à la protection, vous avez déjà parlé des deux premiers piliers. Et dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la protection?
Bon, par rapport à la protection, il y a des mesures dites structurelles, c'est-à-dire ce sont des ouvrages hydrauliques, notamment des digues et des barrages que l'on met en place. Par exemple, si on sait...
Ou des bassins de rétention.
Des bassins de rétention, c'est encore des mesures structurelles plus ou moins douces, parce que là, on veut juste réduire l'impact de la crue en gardant l'eau quelque part pendant un certain moment, suivant le temps de réaction du bassin. Mais les mesures structurelles comme des ouvrages hydrauliques, ce sont par exemple des digues. Hein, on fait par exemple des digues de protection et ces digues de protection sont dimensionnées en fonction d'une crue historique. Souvent les hydrologues parlent d'une crue décennale ou une crue centennale. C'est simplement le fait que avec des simulations ou les observations comme celles qu'on vient d'observer, on sait par exemple dire que avec la pluie qu'il a faite entre le 26 et le 27 dernièrement, il a été d'une intensité d'autant. Et cette pluie, par exemple, on a observé que ça a généré, par exemple, un débit d'autant. Et avec ce débit, ce niveau de cette élévation d'eau, c'est une référence, par exemple, pour fixer la hauteur de la digue. On sait que si ce phénomène arrive, il ne va pas dépasser cette hauteur. Et là, on fixe même la hauteur ou les dimensions d'un ouvrage comme une digue ou un barrage pour protéger, pour limiter le dégât. Voilà un peu, ça sont les mesures, c'est dans la protection.
Et ça demande des études.
Ça demande des études et de moyens conséquents en fonction des enjeux.
Voilà. On va accueillir Deo Gracias de Kananga et Docteur qui passe des Kikwit. Comment lutter contre les inondations dans les grandes villes de la République? Deo Gracias de Kananga, bonjour.
Bonjour monsieur, je dis bonjour aussi à notre invité au milieu des Congolais.
On vous écoute.
Oh oui, moi je dirais ceci que je prends d'abord les deux aspects que notre invité, n'est-ce pas, notre ingénieur a relevé, la prévision et la prévention, qui sont censés, n'est-ce pas, prévenir la population par rapport, n'est-ce pas, à ces dégâts ici. Par exemple, ici à Kananga, nous avons connu dernièrement, n'est-ce pas, les pluies diluviennes qui ont emporté des maisons, n'est-ce pas, des paisibles citoyens. mais aussi longtemps que ces dégâts ici devraient être prévisibles par les services techniques, à l'occurrence les services cadastrales et les services, n'est-ce pas, d'urbanisme et habitat. Vous verrez que non, c'est le mandateur de l'État eux-mêmes là qui sont à la base de ces dégâts ici. De un, ils octroient, n'est-ce pas, les concessions dans des espaces non lotissables. Ils donnent des parcelles là, même dans des terrains versants. Conséquence, quand il y a de fortes pluies et de fortes tempêtes, vous verrez que non, les maisons commencent à s'écrouler successivement, les fonds dominants tombent sur les fonds servants, et ces dégâts-là, nous les avons connus ici à Kananga, les deux derniers mois ici, et il y a eu, n'est-ce pas, péril de vie de gens. Pourquoi, n'est-ce pas, les services cadastrales ne peuvent pas aussi prévenir? Est-ce que ce manque de la formation par rapport à des conditions actuelles des changements climatiques où il faut encore la remise à niveau, où il faut ces services-là parfois est déjà défaillant, il faut, n'est-ce pas, changer d'autres, recruter d'autres qui peuvent, n'est-ce pas, amener de nouvelles technologies pour que ces services-là nous aident. Notre, mon prédécesseur d'ici de Canada vient de le dire, tous les caniveaux sont bouchés. Lorsqu'il pleut abondamment ici, je vous dis qu'il y a stagnation d'eau d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre. Même au centre-ville, ces stagnations-là se transforment dans des lacs où les taximens motards commencent à nettoyer les engins. Donc, je vous dis que c'est une situation terrible. Un autre aspect que je soulève, c'est l'amorcellement des parcelles. Une petite parcelle de 40 mètres, 30 mètres. Pourquoi les conservateurs de tous les immobiliers ont en train de, n'est-ce pas, d'amorceler? C'est ça la situation, même à Kinshasa, là, même à Lubumbashi, ça se produit parce que lorsque les primes tombent, ça manque, n'est-ce pas, la terre ne sait pas absorber cette eau-là. Conséquence, comme nous n'avons pas de caniveaux qui ont, n'est-ce pas, censé éradiquer les eaux et les amener dans des lieux, il y a maintenant des stations de débordement.
D'accord. Merci, Deo Gracias. On va donner la parole à Docteur Kipasa, qui nous appelle des Kikwit. Bonjour, docteur.
Bonjour, Jody. Bonjour à l'ingénieur et à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Jody, le sujet est très, très intéressant, surtout en cette période de pluie. Mais je voudrais demander à l'ingénieur, est-ce que il pense pas que l'une des mesures efficaces serait le renforcement de politiques, de l'exécution des politiques en matière de l'assainissement, de l'urbanisme et même de la santé? Regardez, Jody, et je voudrais lui demander quel est l'état de l'exécution ou de la mise en œuvre de toutes ces politiques. Ça existe dans notre pays. Les décideurs ont pris toutes les mesures parce que le problème des inondations, des érosions, ce sont des catastrophes naturelles et qui ont un impact très, très connu sur le plan de la santé publique. Je prends juste pour compléter ce qu'il a dit. Les inondations pluvieuses à partir des pluies. Regardez, il a dit quelque chose de très intéressant en ce qui concerne les infiltrations des eaux de ruissellement.
Oui.
Regardez, à Kinshasa, il y a une mesure interdisant l'usage des sachets. Dans le pays voisin, on a même interdit l'usage des sachets, parce que les sachets, une fois sur la terre, ça peut rester 20 ans et ça ne se détruit pas. Et alors, c'est ça qui crée les eaux de ruissellement. Et je rentre sur ce qu'il a dit au niveau domestique, les parcelles. À l'époque coloniale, dans la politique urbanistique, tout le monde devait avoir du gazon dans sa maison, dans sa parcelle, avant même d'avoir un petit trou collecteur. Mais si on a déjà du gazon, je prends l'exemple de Kikwit vers Kazamba, on a toujours insisté pour qu'il y ait du gazon dans le parcelle. Ça diminue non seulement la vitesse des eaux de ruissellement, mais il y a les infiltrations qui préviennent. Actuellement, à Kikwit, il y a un sérieux problème avec l'érosion de Kikwit 2 là. Et oui. Aujourd'hui à Kinshasa, en dehors de la politique urbanistique.
Docteur Kipasa, actuellement, est-ce qu'il pleut aussi abondamment ces derniers temps à Kikwit?
Oui, Jody. Il pleut abondamment et chaque fois qu'il pleut, les gens se ramènent à l'exécutif. Ils vont voir le maire, ils pleurent, ils demandent au gouvernement de venir arranger les problèmes. Alors qu'au départ, la population doit s'identifier à toutes ces actions-là. Il doit prendre ces actions, notamment avoir la verdure, le gazon d'abord dans les niveaux les plus simples, avant des grands travaux par le gouvernement. Ça signifie que la population doit obéir à tout ce qui est comme politique dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine urbanistique, parce que ce sont eux qui bouchent les collecteurs à Kinshasa. Ce sont eux qui font du n'importe quoi. Ils construisent de façon anarchique. Donc, si la population arrive à identifier, s'il y a des mesures coercitives pour amener la population à comprendre que le problème que l'ingénieur est en train d'évoquer là, c'est un problème qui, au finish, causera des problèmes dans les familles, les clans, je crois que ça sera une des très bonnes mesures de prévention. Il faudra absolument qu'il y ait l'exécution de toutes ces politiques que le gouvernement a prises concernant l'environnement, l'assainissement et la santé.
Merci docteur Kipasa de Kikwit. Glody, vous êtes à Bandundouville. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur Jody Daniel Kachama. Bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre préoccupation par rapport aux inondations?
Merci beaucoup pour la parole accordée monsieur les journalistes. Vous savez bien qu'ici dans la ville de Bandundu, nous traversons des problèmes sérieux par rapport à l'environnement, par rapport aux eaux de pluie, s'il plaît. Par exemple, dans des quartiers Air Congo, Monusco, ici dans la ville de Bandundu, s'il plaît, il n'y a pas moyen même de sortir, donc vous êtes toujours à la maison. Et de l'eau de la pluie coule vraiment en désordre et parfois ça crée même des dommages, des problèmes dans les différentes familles, dans les différentes maisons des citoyens de la ville. Alors je pose la question à notre invité, s'il peut vraiment nous aider, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour éradiquer ces problèmes? Parce que dans les quartiers que je viens de dire là, il n'y a pas même des terrassés qui peuvent faire couler les eaux de la pluie. Alors qu'est-ce qu'il peut nous dire ou encore qu'est-ce qu'il peut conseiller aux habitants du quartier qui nous écoutent à ce moment, afin de prendre un peu les différentes précautions, en fait de canaliser quand même quelque chose et en fait de faire quelque chose pour que certains habitants du quartier puissent quitter un peu à ce stade que nous sommes. C'est ça ce que j'ai voulu partager pour aujourd'hui. Je dis et je vous remercie.
Merci Glody de Bandundouville. Comment lutter contre les inondations dans les grandes villes de la RDC? Peter Louboya nous appelle des Kananga. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité et à ces milliers d'auditeurs de la Radio de la Paix. Je suis Peter Louboya, environnementaliste de la ville de Kananga. Je suis tellement ravi par les choix du sujet et personnellement, je m'en veux dire que tous mes prédécesseurs n'ont pas mal dit, ils ont bien dit, mais maintenant mes deux amis d'ici, ils ont parlé parce que les faits réels. Mais moi, en tant qu'environnementaliste, moi qui vis dans le domaine de l'environnement, je vous dis, c'est une catastrophe naturelle que nous allons aussi vivre ici à Kananga. Soyez rassurés, je dis, et à l'invité aussi, que Kananga, pour l'instant, n'en parlons pas. Nous savons que récemment, les catastrophes qui se sont commises à Kinshasa, ayant coûté la perte en vie humaine, et aussi à Sumbalesa, on a perdu plus de 10 personnes, 150 blessés graves, tout ça, de maisons et écoles emportées. Tout ça, c'est face au changement climatique. Les changements climatiques, c'est un fait réel et irréversible pour l'instant. Je dis qu'est-ce que je veux dire. La ville de Kananga, pour l'instant, depuis notre jeune enfance, on connaissait que c'était une ville administrative. Et pour vivre, pour habiter à Kananga, il faut que vous soyez reconnu comme une administrative, quelqu'un qui fonctionne et qui travaille dans les services de l'État.
Mais oui, Peter, mais dans les rues et avenues de Kananga, il y a des infrastructures pour l'écoulement des eaux des pluies.
Non. Ne dites pas ça à moi.
Il n'y a pas de caniveaux dans la plupart des rues de Kananga?
C'est suite à une pression que nous avons exercée ici via certaines émissions que nous animons sur les chaînes locales KHRT et d'autres chaînes. Sauvons l'environnement, protégeons l'environnement, ce sont des émissions que nous animons. Que peut-être les autorités locaux ont eu la volonté de voir que ça ne va pas, il faut travailler. Et quand je vous parle ici, c'est vrai, sur certaines artères de la ville de Kananga, après la nomination de ces avenues, la nouvelle nomination bien sûr, il y a certains travaux d'aménagement, de réhabilitation, de reconstruction qui sont en train d'être menés pour l'instant. Mais par rapport à la construction anarchique, je vous dis, toutes les eaux de pluie, toutes les eaux de ruissellement ne savent pas où aller. La ville de Kananga, je vous parle ici, les taximen moto ont la facilité de laver leur moto en plein centre-ville parce qu'il y a des flaques d'eau presque partout. On ne vous trompe pas, je dis. Et tout le long de la rivière Nganza, acceptez que je vous dise aujourd'hui, c'est plein, plein une démographie que vous n'avez pas d'idée. Mais avec cette pression que nous exerçons sur notre milieu de vie, notre cadre de vie, nous attendons à quoi demain?
D'accord, merci Peter. Merci Peter, on va donner la parole à notre invité. Vous avez suivi, à Kananga, il y a un problème de ruissellement sauvage des eaux des pluies, il n'y a pas de canalisation, tout ça. Ingénieur Chito, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces auditeurs?
Oui, merci pour les préoccupations et même les contributions des auditeurs sur le sujet. Par rapport à Kananga, comme l'intervenant de tout à l'heure venait de mentionner, qu'il y a une carence des ouvrages d'assainissement. Donc c'est tout à fait naturel qu'on puisse constater des ruissellements sauvages parce que les eaux ne sont pas canalisées. Mmh. Et quand les eaux ne sont pas canalisées, c'est un danger, c'est une bombe. C'est une bombe parce que avec la vitesse des eaux qui ne sont pas canalisées et même le volume, ça peut détruire toute une ville et c'est le cas de Kananga aujourd'hui. Et
nous ça cause des érosions,
ça cause des érosions dans les zones à forte pente. On a des érosions dans les zones à forte pente. Et là, même si on a un taux d'imperméabilisation plus ou moins faible, parce que bon, j'imagine que on n'a pas un taux d'imperméabilisation très élevé dans la ville de Kananga, mais quand les zones ne sont pas canalisées, alors l'eau s'est fait son propre chemin. Et quand l'eau s'est fait son propre chemin, c'est vraiment catastrophique. Donc nous encouragerons peut-être les autorités à prendre des dispositions pour pouvoir doter des ouvrages d'assainissement
adéquats. Docteur qui passe à Dekiku, tu as parlé aussi des sachets qui restent trop longtemps dans les sols et ça ne permet pas aux eaux des pluies d'infiltrer. Ça réduit la capacité d'infiltration des eaux de pluie.
Oui, il y a le sachet, mais il y a pas seulement le sachet qui joue un rôle néfaste dans le fonctionnement hydraulique des ouvrages. Il y a tous ces dépôts et tous ces poubelles qu'on déverse dans les caniveaux. C'est désastreux et ce n'est pas indiqué parce qu'en faisant ça, la capacité des ouvrages est réduite et les volumes qu'ils devaient prendre, la section est réduite et les eaux débordent. Voilà.
Et les autres docteurs qui passent, elle dit, si chacun, par exemple, dans sa parcelle peut planter des gazons, avoir des gazons, ça peut aider à réduire la vitesse de ruissellement des eaux.
Nous avons dit ici que nous encourageons l'aménagement des espaces verts. Donc, les espaces verts, ce sont des gazons parce qu'ils favorisent l'infiltration. Et aussi, la vitesse des eaux est ralentie. Parce que quand vous avez un espace couvert par la végétation ou même par le gazon dans une zone même à forte pente, vous avez la vitesse de ruissellement qui est fortement réduite. Et ça peut aussi limiter plus ou moins l'érodabilité ou les dégâts de l'érodabilité dans une zone. Quand vous avez une zone couverte, vous avez la pluie qui une grande partie est infiltrée et simplement une faible partie de la pluie contribue à l'écoulement et ça peut atténuer les dégâts.
Et Deo Gracias de Kananga veut savoir qui est censé prévenir la population par rapport aux inondations.
Bon, nous avons dit ici, en termes de la prévention et de la prévision, normalement, il revient à l'autorité de prendre des dispositions à travers des services compétents qui doivent peut-être être créés ou s'ils existent, de pouvoir alerter ou bien étudier le phénomène au niveau de chaque...
Quel est ce service qui est censé le faire?
Bon, normalement, il y a déjà la météo qui fait la prévision météorologique en termes de pluie, mais à côté de la météo, il devait avoir un service national de prévention de catastrophes naturelles comme les inondations. Mmh. Et ces services auraient la charge d'établir un programme ou un plan d'action de lutte contre les inondations en développant, par exemple, en étudiant le comportement hydrologique de chaque commune ou de chaque ville. Parce que les villes ou les communes, ce sont des bassins, c'est-à-dire ce sont des zones où les eaux s'écoulent. Et en étudiant le comportement ou le fonctionnement hydrologique de chaque ville, on peut arriver à dire avec exactitude qu'il y aura telle crue pendant autant d'heures et on sait prendre les dispositions. Et conséquemment aussi, on sait faire de tracer de nouveaux ouvrages d'assainissement par rapport aux anciens, peut-être qui ne répondent plus. Et tout ça, c'est un service peut-être qui devait prendre en charge cette question pour gérer...
Il existe au ministère de l'Intérieur un service qu'on appelle de protection civile. Est-ce que ces services sont censés faire également ce travail-là?
Bon, je pense que c'est plutôt au niveau du ministère de ZITP avec l'OVD, qui s'occupe normalement du drainage dans des zones urbaines, qui normalement a en charge cette question de la gestion des eaux de ruissellement.
Mais il existe un service chargé de la surveillance avec des appareils pour mesurer le niveau d'eau? Est-ce que ça...
Il y a des services comme ça. Bon, il y a par exemple, j'ai mentionné ici la régie de voies fluviales aussi. Je crois que ils ont aussi des équipements et même le centre de recherche qui est doté des équipements. Il y a également l'Agence congolaise de grands travaux qui a des équipements de mesure hydraulique pour développer des modèles pour simuler et pouvoir prendre des dispositions à temps. Parce qu'une fois qu'on a un modèle pluie débit, on sait savoir qu'après une pluie donnée, on peut avoir une crue de telle amplitude et on sait prendre des dispositions et même pouvoir récalibrer peut-être les berges de certains cours d'eau qui peut-être sont suffisamment chargés. Mais il faut plus insister aussi sur la maintenance et le curage des ouvrages et le cours d'eau qui déborde de temps en temps.
Comment lutter contre les inondations dans les grandes villes du pays? Félicien nous appelle de Kinshasa. Bonjour Félicien.
Bonjour aujourd'hui, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, moi je dis que partout dans le monde, les gouvernants sont en train de prendre des dispositions pour prévenir les catastrophes naturelles. Et ils sont en train de prévenir tous les dégâts qui peuvent arriver ou les minimiser. Et ils sont en train de reconstruire les villes en fonction de l'évolution démographique et de leur population. Et ici chez nous, au contraire, chaque année, ce sont les mêmes faits, les mêmes histoires qui se reproduisent. Et nous voyons les dirigeants aller consoler la population. Et la même chose, à commencer par les députés, les ministres et les présidents de la République et qui se promènent pour aller consoler. Et demain, ça reprend, c'est toujours la même chose et rien n'a changé. Alors, la question qu'on se pose, qu'est-ce que nous devons faire pour combattre cette médiocrité dans la gestion de la chose publique? Et qu'est-ce que nous devons faire pour éviter aussi que notre urbanisation ne soit pas contrôlée? Ce sont les chefs coutumiers qui distribuent les espaces où on doit construire, contrairement à ce qui s'est fait hier où d'abord on fait les lotissements et puis les gens viennent acheter des terrains. Mais chez nous, c'est l'inverse. Et on vient constater, l'État vient constater seulement après qu'on ne devait pas construire là-bas. Il vient détruire la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, puis c'est l'État qui se fatigue et les gens finissent par construire et après ce sont des catastrophes naturelles qui arrivent. Et je pense que cet état des choses montre qu'il n'y a pas la gouvernance, où nous ne sommes pas gouvernés et nous sommes en train de naviguer à vie. Et on voit que les dirigeants qui sont là, celui-ci arrive, il s'enrichit, il s'en va, et l'autre arrive, il s'enrichit, il s'en va. Ça va faire plus de 60 ans que nous menons cette vie-là. Et comment faire alors pour sortir de cette imbroglio, de cette médiocrité? C'est là ma question.
Bien, merci Félicien de Kinshasa. Platini Mbombo nous appelle de Mbandaka. Bonjour Platini.
Je vous dis bonjour, bonjour à l'invité, bonjour à tout le monde.
Est-ce qu'il y a certains quartiers de Mbandaka qui sont inondés actuellement?
Vraiment, je vous dis, ici c'est grave. Et d'ailleurs, je commence d'abord à remercier toute l'équipe de la radio Capi pour la réouverture de cette radio, parce qu'ici, on a fait au moins 2 mois qu'elle ne reçoit pas la radio Capi. Vraiment, félicitations. Je vous dis, ici à l'Équateur, c'est catastrophique, je vous dis. Et je peux aussi commencer dans les territoires de Momongo, où jusqu'au preuve du contraire, les enfants ne dis pas. Il y a l'eau partout, toutes les 3 secteurs sont inondés par l'eau. Les jeunes gens vivent de pirogues. Même ici, dans la ville de Mbandaka, je peux vous citer, il y a un avenir, ce qu'on appelle l'avenir royal, un avenir qui commence à côté des résidences officielles du vice-gouverneur, amène aussi à côté du bâtiment administratif. Cet avenir-là, il y a quelque part là, il y a d'eau, et c'est inondé aussi. Je pense un exemple d'un avenir ici, c'est qu'on dit l'avenir Bolingue. Il y a tout au long là, cette avenir-là commence à être inondée par l'eau. Alors je dis, moi je pense que pour lutter contre l'inondation, d'abord, il y a ce qu'on appelle un service compétent de l'État. aussi, il y a ce qu'on appelle, comme le journal Chito a dit, le respect là, pour soit vendre quelques espaces de ou soit pour vendre, pour construire une maison, il faut souvent suivre les paramètres. Mais si, comme les gens ne respectent pas, construire la maison par-ci, par-là, raison pour laquelle, quand l'illumination arrive, ça commence à perturber. Donc, ici, chez nous, en Bandaka, et dans la province de Locateur, aujourd'hui, je vous dis qu'il y a l'inondation, même dans la ville, et aussi dans quelques territoires que je citais. Mais, d'ailleurs, oui. Je ne sais pas si le gouvernement central est au courant par rapport à ça, parce que ici, dans la province de Locateur, bien que le gouvernement provincial fait quand même l'effort de soutenir cette sinistrée-là, mais ça ne consiste même pas à ça. Je ne sais pas si le gouvernement central peut rapidement aider c'est quelque part la population. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, que territoire des Momoro, les gens n'étudient pas. Les élèves n'étudient pas. D'ailleurs, les sous-pouvaient être ici pour plaider. Parce que là-bas, il n'y a pas d'école. Mais toutes les écoles sont couvertes par ces pas-là. Toutes
d'accord.
Les oui. Amène au niveau de River Oubangui. Mais alors, je voudrais poser la question à l'invité, parce que je crois qu'il est ingénieur civil. Il est ensemble au studio avec vous. Je ne sais pas qui est réellement censé sécuriser bien et la population et leurs biens lorsqu'il y a l'inondation. Parce qu'on a entendu passer par là à travers le pays, mais là, on n'entend rien du gouvernement. Je ne sais pas si on entend réellement la poule extérieure. Voilà, je voudrais avoir belle idée. Je vais citer qui est au sud avec vous. Moi, je vous remercie.
Merci. Merci, Platini. Chico, vous êtes aussi à Mbandaka. Bonjour. Quelle est votre préoccupation rapidement?
Oui, bonjour, aujourd'hui. Bon, comme vous l'avez dit, je suis à Mbandaka, Chico Mbutu. Bon, pour moi, je trouve ça difficile. Comment on va lutter aux inondations? Il est très difficile parce que si on voit ici à Mbandaka, il y a des collecteurs. Les Blancs ont fait des collecteurs afin que les collecteurs puissent collecter des eaux qui sortent des caniveaux afin de déverser ça dans les fleuves. Aussi longtemps que la population n'est pas sensibilisée, pour lutter contre les déchets dans des collecteurs afin de permettre les eaux d'écouler. C'est un problème grave. Je suis ici en Mbandaka, là je vous parle. Je suis à 100 km, à 100 mètres des grands collecteurs ici en Mbandaka. Mais il faut voir l'état de ces collecteurs. À chaque fois, la population environnante jette les déchets dans les collecteurs. Mais comment les eaux vont passer aussi longtemps que les collecteurs ne sont pas venus?
D'accord.
Moi, je pense que l'invité va faire des plaidoyers tout en regardant la politique de l'assainissement de notre pays. Parce que si je regarde aussi notre milieu ici à Mbandaka, comment la mairie procède à assainir le milieu? Je dis, c'est un problème grave. Vous verrez, la mairie avec un petit pick-up qui transporte des déchets.
Oui.
Il va aller ça.
Merci, Chico.
D'accord.
D'accord, Chico. On n'a plus beaucoup de temps. L'invité va conclure. Ingénieur Chito, vous avez la parole.
Merci pour nos amis auditeurs qui ont particulièrement contribué par rapport à ces sujets. Sur la préoccupation de Monsieur Félicien, que faire? Que faire? Parce que on est dans le curatif. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a catastrophe, on va visiter pour réconforter les familles.
Mais ils disent ça a toujours été comme ça, mais on
bon,
sait pas.
Je pense qu'il n'est jamais trop tard.
Travailler sur la prévention.
Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Donc on peut aller sur l'anticipation. On peut anticiper et jouer sur le trois piliers, comme je dis, la prévention, la prévision et la protection. Je pense que c'est possible. Il n'est pas trop tard pour mieux faire, même si les politiques existent, le politique en cette matière d'assainissement existe, il faudrait des mesures d'accompagnement. Des mesures d'accompagnement, ça peut être un service public qui aura simplement en charge la prévention de toutes ces catastrophes naturelles par la prédiction, par le développement des modèles hydrologiques qui va simuler les comportements hydrologiques de chaque ville, de chaque sous-bassin et finalement anticiper et prévenir toutes ces catastrophes.
Sinon, on va continuer à compter. Il y aura toujours des maisons emportées, des personnes sinistrées.
Sinon, on restera dans le curatif. Ouais. On restera dans le curatif et dans la réactivité. Voilà.
Bien. Ingénieur Chito Marigeko Auguste, je rappelle que vous êtes ingénieur civil des constructions et expert en hydrologie, membre de l'Ordre national des ingénieurs civils du Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève le magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis partout où vous êtes en République démocratique du Congo. Willem Lungamba était à la mise en onde. Marcel Ngombo a assuré la coordination et la réalisation au micro aujourd'hui Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.